إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Le thème d'aujourd'hui, inshallah subhanahu wa ta'ala, sera autour du jeûne, et spécialement autour du jeûne du mois de Ramadan. Les premiers points que je vais traiter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, concernent la valeur du jeûne en islam, la position du Ramadan en islam, les vertus du jeûne en islam. Je vais parler à partir des versets coraniques et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En lisant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne comme il parle de la prière, de la zaka et d'autres actes d'adoration. Ce sont en quelque sorte des stations pour le musulman. Des stations auquel le musulman doit s'arrêter pour se purifier de ses péchés, pour se nettoyer de ses péchés, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme sa mère l'a mis au monde la première fois avec aucun péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du jeûne en général, avant de parler du Ramadan, a cité des caractéristiques très très importante pour le musulman. Et on va voir, inshallah, parmi les 10 caractéristiques citées dans un verset de Sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala a mis au milieu de ces caractéristiques une place pour le jeûne, pour ceux qui font le jeûne en général. Allah Azza wa Jal cite en disant, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن المسلمين لسوميز والمسلمات لسوميز les femmes, والمؤمنين les croyants, والمؤمنات les croyants. Et je vais continuer par après le verset. La cause de la révélation de ce verset, comme il est rapporté dans Musnad l'imam Ahmed, dans Sunan Abi Daoud, c'est que des femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont posées la question en disant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cite que les hommes dans le Coran, les croyants, les musulmans, et ne cite pas les femmes. On voudrait bien, on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala cite et parle aussi des femmes au féminin, en disant les musulmanes, les croyantes, les dévouées de eux, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans le Coran que je vais lire d'abord en arabe, inshallah, et puis je vais le traduire en français. Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati wal-qanitina wal-qanitat wal-sadiqina wal-sadiqat wal-sabirina wal-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat wal-sa'imina wal-sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala parle des soumis, des croyants et croyantes, dévoués, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, bienfaisants et bienfaisantes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leurs parties intimes et gardiennes, invocateurs de Dieu beaucoup et invocatrices. Dieu a préparé pour eux pardon et énorme récompense. Dans Sourate Al-Ahzab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis une grande place, une grande valeur pour ceux qui font le jeûne dans ce verset de Sourate Al-Ahzab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Baqarah, il nous ordonne une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire le jeûne. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. C'est mieux pour vous de faire le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de plusieurs textes prophétiques, il précise la valeur du jeûne. Et je vais aller un peu vite vu le temps. Le premier point, c'est que le jeûne est pour le musulman une protection contre le shahawat, contre les passions, les désirs de ce bas monde. Chacun a des fois des tentations. Il est tenté par shaitan, par les passions de shaitan, par ses plaisirs que peut apporter shaitan. Et des fois aimé même par un nefs de l'être. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que la valeur du jeûne, c'est de protéger le musulman de ses shahawat. Et là on se rappelle du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que le paradis est entouré de choses détestables par l'homme. Et l'enfer est entouré de shahawat, des choses aimées par l'homme, des plaisirs, shahawat. Alors, si le paradis est entouré de choses qui sont difficiles à accomplir, telles que la prière 5 fois par jour à l'heure, tant en hiver qu'en été, et faire le ramadan 30 jours ou 29 jours par an, supporter ce jeûne, notamment quand il fait très chaud en été, et les autres adorations dans les zakat, sortir une somme d'argent, fi sabilillah. Il y a des choses que certains trouvent difficiles à accomplir. Bien sûr, sauf les croyants. Sauf les croyants qui trouvent ça facile et qui aiment faire ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en général, il y a des gens qui trouvent ça difficile. Le chemin du paradis est fait d'épreuves et fait de certaines choses difficiles, mais qui sont rendus faciles par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cet amour d'aller au paradis, de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection au paradis, d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le jeûne est un bouclier, est une protection contre ces shahawats qui veulent le mener vers l'enfer, vers Jahannam. Shaitan essaye par tous les moyens de nous égarer. Et surtout, à notre époque où il y a toutes sortes de moyens de faire égarer les gens, de les écarter de la voie de l'islam, par tous les moyens qui sont préparés de la meilleure façon pour égarer le musulman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle en disant, en s'adressant surtout aux jeunes, shabab, ô vous les jeunes, ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata فليتزوج ومن لم يستطع أو فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Le prophète par exemple s'adresse aux jeunes en leur disant, oh vous les jeunes, ya ma'shara shabab, celui qui est capable de se marier, il a les moyens matériels et physiques, il a les moyens de se marier, qu'il se marie. Et maintenant, on entend de plus en plus l'âge des nouveaux mariés, de ceux qui veulent se marier, qui deviennent de plus en plus grands. On se marie à 35, à 40 et même plus. Et ça, c'est contre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Parce que ça l'aide à baisser son regard, ça l'écarte du haram, de faire le haram, de commettre l'adultère, Mais s'il n'a pas les moyens, eh bien le conseil qu'a donné le prophète en fait, c'est saum, le jeûne. Le jeûne. Et certains jeunes essayent de chercher d'autres moyens pour répondre à leur plaisir, à leur désir. Alors ils disent, moi je ne peux pas me marier, est-ce que je vais toujours faire le jeûne? Si je ne peux pas faire le jeûne, alors je peux chercher un autre moyen de haram pour répondre à ses désirs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le conseil du jeûne, de siyam. Il ne nous a pas donné le jeûne, le moyen ou la solution dans un acte qui est illicite, qui est haram. Mais c'est dans le jeûne, dans la piété, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut trouver refuge contre les shahawat. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par al-Bukhari, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit الصيام جنة يستجن العبد بها من النار. الصيام le jeûne est une protection, est un bouclier par laquelle, grâce à laquelle le jeûnant se met à l'abri de l'enfer, du jahannam. C'est comme quelqu'un qui est dans une guerre, dans une bataille, il a un bouclier pour se protéger. Eh bien le jeûne il te protège de tomber en enfer, dans le jahannam, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith de Tirmidhi dit Man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allah baynahu wa bayna an-nari khandaqan kama bayna as-sama'i wal-ard. Celui qui fait un jour de siyam dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah le jour de la résurrection, il va mettre entre lui et l'enfer un fossé de la distance des cieux entre les cieux et la terre pour l'écarter de l'enfer. Dans un autre hadith, dans le même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui fait un jour de siyam dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'écarte de l'enfer de la distance de 70 années. Celui qui fait le jeûne dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète alayhi salatu wa sallam, en parlant du jeûne, et il le montre que le jeûne c'est un moyen pour gagner al-jannah, le paradis. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Umama, radiyallahu anhu, dans Sunan al-Nasa'i, et Sahih ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, il dit, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien c'est Abu Umama, radiyallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, indique-moi une œuvre, dullani ala amalin, adkhulu bihi al-jannah. Indique-moi une œuvre qui me permet de gagner le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, fais le jeûne, accomplis le jeûne, car il n'a pas d'équivalent. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Accomplis le jeûne, car il n'a pas d'équivalent. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith, il regroupe certains vertus et certains mérites de siyam, en disant en premier lieu que as-sa'imu, ceux qui font le jeûne, seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, par une récompense dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à connaître le nombre de le degré de la récompense. Alors il dit sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jalla qala Allah ta'ala, c'est un hadith qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu 'amal ibn adam la, tout ce que tu fais comme action, comme acte d'adoration. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour chaque bonne action, il te donne 10 hasanat. Multiplié des fois jusqu'à 700 hasanat pour une seule action qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est récompensée 10 fois jusqu'à 700 fois. Mais le jeûne, al-siyam, seul Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-siyam fa innahu li, dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bih. Le seul qui connaît la valeur de la récompense du siyam, du jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait le jeûne en siyam a deux moments de joie. Deux moments de joie. Le premier moment de joie, c'est à la rupture du jeûne, à la fin du ramadan, ou bien à la fin de la journée. Quand il va rompre son jeûne, eh bien il est content d'avoir accompli un jeûne et accompli ce jeûne comme le veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les règles de l'islam. Alors il est content qu'il a su et qu'il a pu faire ce jeûne. C'est une joie, c'est un moment de joie pour le croyant, pour le mu'min. le deuxième moment de joie, c'est à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, il sera content quand il va rencontrer Allah azza wa jal d'avoir accompli et que Allah lui a donné la santé et la capacité d'accomplir as-siyam, le jeûne. Alors il sera content de ça, parce qu'il va trouver ça dans son livre des bonnes actions. On va voir une des autres récompenses concernant celui qui fait le jeûne. Le troisième point cité dans le même hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, Ar-Rasul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa la khuloufu fami sa'im » la laine qu'on sent chez le jeûnant, celui qui fait le jeûne, en général on la sent comme étant une mauvaise haleine. Alors que cette mauvaise haleine, entre parenthèses, chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la khuloufu fami sa'im atyabu indallahi min rihi al-misk » Elle est meilleure chez Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Elle est considérée comme meilleure que l'odeur du musc. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith rapporté par Bukhari Muslim, il dit dans la version du Muslim que As-Siyam va, le jour de la résurrection, être une récompense pour toi parce qu'il t'a empêché de manger pendant la journée et d'avoir des rapports avec ton épouse pendant la journée de Ramadan, pendant la journée de Siyam, même en dehors de Ramadan, parce qu'il t'a empêché d'avoir des choses qui sont normalement licites, halal, à faire en dehors du jeûne, mais tu t'abstiens de les faire parce que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a interdit. Eh bien, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'abstiens de manger, de boire, d'avoir des rapports. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala te donne toute cette récompense le jour de la résurrection. يترك طعامه وشهوته من أجلي كما قال الله سبحانه وتعالى يتبتيان de manger, de boire et d'avoir des rapports pour moi comme dit الله سبحانه وتعالى pour l'amour d'Allah سبحانه وتعالى. Et le jour de la résurrection, regardez mes frères et sœurs, la valeur du jeûne. Le jour de la résurrection, le jeûne viendra pour intercéder chez الله سبحانه وتعالى auprès d'Allah عز وجل pour toi. Il va dire, Ya Rabbi, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, j'ai empêché ton serviteur de manger et d'avoir des rapports. Ya Rabbi, mana'tuhu ta'amahu wa shahwatahu. Ya Rabbi, fashaffi'ni fihi. Oh mon Seigneur, accepte mon intercession auprès de toi pour pardonner, pour le faire rentrer au paradis, pour faire rentrer ce musulman au paradis. Le Coran viendra, la même chose, dire Ya Rabbi, j'ai empêché ce musulman qui lisait le Coran le soir, la nuit, je l'ai empêché de dormir. Alors Ya Rabbi, j'intercède auprès de toi pour lui pardonner, le faire rentrer au paradis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va donner cette intercession, va accepter l'intercession du jeûne et du Coran pour faire rentrer au paradis ce musulman qui faisait le jeûne, il lisait le Coran. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Imam Ahmed et dans d'autres livres. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Hudayfa, radiyallahu anhu, quand Omar ibn Khattab a posé la question à Hudayfa, en lui disant, Ya Hudayfa, connais-tu le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la fitna, l'épreuve, de la fitna, le désordre qui va toucher la nation musulmane. Hudayfa, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Les épreuves et les problèmes que rencontrent les musulmans et qui peuvent provoquer pour les musulmans des péchés, il peut tomber dans le péché avec les épreuves, avec sa famille, ses enfants, ses biens, ses voisins. Il lui a dit, toutes ces épreuves, ce genre de péché qu'il peut faire le musulman, ils sont pardonnés, effacés par le jeûne, la sadaqa, tukaffiru as-salatu wa as-sadaqa wa as-siyam wa as-sadaqa. Ils sont effacés par la prière, par le jeûne et par la sadaqa, le monde. Donc le jeûne efface les péchés du musulman. Mais après, Omar ibn Khattab va lui dire, non Ya Hudayfa, c'est pas le hadith que je veux. Je parle du hadith concernant la porte. Il lui a dit, la porte, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, cette porte qui se trouve entre nous, les musulmans, et entre la fitna, le désordre, elle va être cassée. Et Omar ibn Khattab lui a dit, si cette porte sera cassée, ça veut dire qu'elle ne se refermera jamais.
Alors, Hudaïfa, quand Omar ibn Khattab est parti, il a dit aux musulmans qui étaient avec lui, cette porte, c'est Omar ibn Khattab. Et le fait de casser la porte, son interprétation, c'est l'assassinat de Omar ibn Khattab. Omar était comme une porte contre Hitler, radiyallahu anhu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, il dit,
dans le paradis, il y a 8 portes. Comme l'enfer, on a 7. Chaque porte est réservée à une certaine catégorie de musulmans. Ceux qui faisaient la prière comme il se doit, comme il faut, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient beaucoup de prières. Ces gens-là, ils vont rentrer par la porte des prières. Ceux qui faisaient as-siyam, beaucoup de jeunes as-siyam, ils vont rentrer par la porte de siyam qui s'appelle la porte de Rayyan. Comme l'a rapporté Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le jour de la résurrection, les gens qui faisaient la prière, des prières autres que les prières obligatoires, ils vont rentrer au paradis par la porte des prières. Ceux qui faisaient le djihad iront au paradis par la porte du djihad. Ceux qui faisaient le jeûne iront au paradis par la porte du jeûne, etc. Et Abu Bakr radiyallahu anhu pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, y aura-t-il quelqu'un qui rentrera au paradis par les 8 portes du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant, Na'am, oui, il y a Abu Bakr, et je demande, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois parmi ceux-là qui rentreront au paradis par les 8 portes du paradis. Radiyallahu anhu, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre que cette porte qui est réservée aux jeûneurs, à ceux qui font le jeûne de Ramadan et à ceux qui font le jeûne en général, Siyam, la porte qui s'appelle Al-Rayyan, elle est réservée à ceux qui font le jeûne. Et une fois ces personnes rentreront au paradis, eh bien cette porte sera fermée et personne n'aura le droit de rentrer par cette porte. On arrive au mois de Ramadan, les mérites du mois du Ramadan. Siyam, Shahr Ramadan, Shahr Siyam, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, il dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est dans le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Al-Quran. Donc le Coran, le meilleur livre révélé au prophète sallam dans le meilleur mois et au meilleur prophète dans la meilleure nuit, Laylat al-Qadr. Allah ta'ala dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan, une guidée pour les gens, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que pendant le Ramadan, à partir du premier jour et de la première nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les grands satans, les grands shayatins. Ils sont enchaînés, comme l'explique la version de Sunan al-Nasa'i. Les grands satans sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et aucune de ces portes du paradis n'est fermée. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune de ces portes n'est ouverte jusqu'à la fin du Ramadan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. Laylatun khayrun min alf shahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit, laylatul qadr, c'est la meilleure nuit de toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la valeur de Ramadan. De Ramadan spécialement, après avoir parlé du jeûne en général. Ramadan, comme dit le prophète, c'est un moyen d'effacer les péchés. Le prophète dit que les 5 prières obligatoires effacent les petits péchés. Le vendredi, du vendredi au vendredi, effacent les péchés, les petits. Du Ramadan jusqu'au Ramadan, celui qui accomplit Ramadan comme il faut, comme le veut le prophète, eh bien Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait comme petit péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawatul khams. والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Pas les grands péchés, les petits. Et pendant le mois de Ramadan, celui qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la rupture du jeûne, eh bien ce qu'il demande est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le précise le hadith de Ibn Majah et de Al-Bazzar rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait le jeûne du mois de Ramadan a une demande exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au moment de la rupture du jeûne. Dans un hadith de Amra ibn Murra al-Juhari, radiyallahu anhu, il dit, un homme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, si j'atteste qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illallah, et que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa annaka Rasulullah, et je prie mes cinq prières obligatoires, je donne le monde obligatoire, az-zaka, et je fais le jeûne du mois de Ramadan,
wa sumtu Ramadan,
wa qumtuhu, et je fais qiyam al-layl, la prière de la nuit, tarawih,
pendant le mois de Ramadan,
famimman ana, je suis considéré parmi qui? Parmi les musulmans. Parmi quel groupe de musulmans? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu es parmi as-siddiqina wa-shuhada, les véridiques et les martyrs. Il y a la valeur des véridiques et des martyrs. As-siddiqina wa-shuhada.
Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban, dans Sahih Ibn Hibban.
Dans le mois de Ramadan, on a aussi la chance de faire la prière de Tarawih, qu'a rappelé Umar ibn Khattab. C'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a prié pendant 3 journées, 3 nuits, la prière de Tarawih, et qu'il a arrêté de prier pour qu'elle ne soit pas obligatoire pour les musulmans, de crainte qu'elle soit obligatoire. Alors il a arrêté de faire Tarawih. Donc c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Umar qui a de nouveau ordonné à ses compagnons et aux musulmans de prier derrière Ubay, radiyallahu anhu, de reprier Tarawih que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui négligent en Siyam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en montant sur la chair, sur le mimbar, il dit 3 fois Amin, Amin, Amin. On dit, Ya Rasulallah, tu viens de dire une chose que tu ne disais pas auparavant. 3 fois Amin. On lui pose la question, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril vient, alayhi salam, vient de me dire, Ya Muhammad, celui qui a la chance d'être encore en vie, et il fait Ramadan, mais cette personne, Allah ne lui a pas pardonné, parce qu'il a négligé Ramadan, ou bien il n'a pas fait Ramadan du tout. Eh bien, Jibril dit, Ab'adahu Allah, qu'il soit écarté de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit, Amin. Jibril dit qu'il soit, il fait une invocation contre lui, celui qui néglige Ramadan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, il a vu dans un songe, dans un rêve, que 2 hommes sont venus chez lui. 2 hommes sont venus sous forme de 2 hommes, 2 anges. Ils l'ont pris de ses 2 mains, ses 2 bras, ils l'ont fait monter sur une montagne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne peux pas monter sur cette montagne, elle est très très haute. Ces 2 anges ont dit, on va t'aider, ne crains rien, on va t'aider à la monter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté sur cette montagne et il a entendu des voix. Il a posé la question à ces 2 hommes qui sont des anges en disant, c'est quoi ces voix? Les 2 hommes répondent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit des voix des gens de l'enfer qui viennent du Jahannam. Alors le prophète il dit pourquoi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a vus accrochés, ce sont des gens, des musulmans, accrochés en enfer, c'est adab al-qabr, adab al-barzakh, le châtiment des tombes, c'est avant yom qiyama, ils sont accrochés en enfer en train de se faire châtier et du sang qui sort de leurs lèvres déchirées. Ils resteront dans ce châtiment parce qu'ils ont négligé siyam ramadan, parce qu'ils mangeaient. Il rompait le jeûne avant l'heure, avant le jour de la rupture, avant l'Eid et avant l'heure de Maghrib. C'est des gens qui rompaient le jeûne avant l'heure et avant le temps de la rupture. Eh bien, ils seront châtiés dans leur tombe, comme le précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sunan al-Nasa'i. Et j'arrive maintenant à quelques règles. Si j'ai encore le temps, sinon je le laisserai au moment des questions. Quelques règles, je rappelle aux frères et sœurs, quelques règles concernant le mois de Ramadan. Tout d'abord, à ne pas, le premier point, ne pas faire le jeûne du jour du doute. Le 30e jour du Sha'ban, c'est ce qu'on appelle Yom Shak. Eh bien, le jour du doute, il n'est pas permis aux musulmans de faire ce jeûne du doute, du Shak. Il va dire, moi je vais le faire, parce que peut-être, ça sera un jour de Ramadan. Il y a encore du doute. On ne sait pas est-ce que c'est le 30e jour du Sha'ban ou bien c'est le premier jour de Ramadan. Alors qu'est-ce qu'il fait? La veille, il dit, moi je vais faire, dans tous les cas, je vais faire le jeûne de ce jour. Comme ça, je ne tombe pas dans le péché si c'est un jour de Ramadan. Ça, c'est une erreur, il ne doit pas le faire. Parce que c'est une désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a précisé Ammar, radiyallahu anhu, il dit, « Man saam al-yawm al-ladhi yushakku fihi, faqad asa Aba al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. » Celui qui fait le jeûne du jour du doute, il a désobéi à Abu al-Qasim, au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un qui a l'habitude de faire lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, ça tombe un lundi ou un jeudi, c'est pas grave. Il a l'habitude, il le fait comme étant un jeûne, un lundi ou un jeudi. La même chose, la deuxième moitié du Sha'ban, celui qui a l'habitude de faire siyam, il le fait. Aussi parmi les règles de siyam, c'est de faire l'intention niya. La veille, avant le fajr, de faire niya, niya de siyam, comme le précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut faire siyam, la veille, avant le fajr, il doit faire un niya. Parce que le prophète dit, « Man lam yubayyit as-siyam min al-layl, fala siyam alayh, fala siyam alayh. » Celui qui ne manifeste pas l'intention de faire le jeûne avant le fajr, la nuit, la veille, donc avant le fajr, il n'a pas de jeûne, il n'a pas de siyam. Il doit avoir niya, niya de siyam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le fajr, ceci est dans le jeûne obligatoire, pas dans le jeûne surrogatoire. Nafila, il peut faire niya même le matin, même à 11h du matin, il peut le faire. S'il n'a rien mangé, il se réveille le matin, il n'a rien mangé, après il se dit dans sa tête, eh bien comme j'ai rien mangé, je peux faire siyam. Il a le droit comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha, radiyallahu anha. Mais dans le jeûne obligatoire, il doit avoir niya avant al-fajr, avant al-fajr. Parmi certaines règles de siyam, le premier point, je vais citer quelque chose qui sont autorisés par la loi islamique dans le jeûne du mois de Ramadan. Le premier point, c'est de se trouver, après l'ordre du fajr, de se trouver en état de janaba. Ça peut arriver à un frère ou à une sœur de se trouver en état de janaba alors que le fajr est déjà passé. C'est-à-dire l'heure du début de fajr, comme vous le savez, à Siyam, il commence à partir de fajr, l'aube, le vrai, jusqu'à le maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Une fois le soleil est couché, il faut faire vite, se hâter à rompre le jeûne et ne pas ressembler aux égarés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que, comme il l'a fait dans Sahih al-Bukhari, Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, le matin, après le fajr, il se trouvait en état de janaba, après le fajr. Donc ça n'annule pas le jeûne, le fait de se réveiller. Par exemple, quelqu'un qui se réveille un quart d'heure, une demi-heure, plus ou moins, après le fajr, il se réveille en état de janaba. Ou bien quelqu'un qui a eu des rapports et il n'a pas eu le temps de se laver avant le fajr, il est resté en état de janaba jusqu'après le fajr. Eh bien, il a le droit, c'est autorisé. Le prophète le faisait comme il est rapporté dans le livre du jeûne de Siyam dans Sahih al-Bukhari. Aïcha dit que le prophète, des fois, se trouvait après le fajr en état de janaba. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait après le fajr. Il se lavait et il reprenait son jeûne.
Le deuxième point, de se frotter les dents, faire siwak. C'est autorisé aux musulmans d'utiliser siwak pendant toute la journée de Ramadan. Il n'y a aucun texte qui interdit ou qui déconseille aux musulmans d'utiliser siwak pendant la journée de Ramadan. Car le prophète sallam dans les hadiths, qu'il a recommandé et très recommandé aux musulmans d'utiliser siwak avant chaque ablution, avant chaque prière, comme dans Sahih al-Bukhari, dans d'autres livres de la tradition du prophète sallam, il n'a pas exclu une partie de la journée de Ramadan, comme dans certaines écoles juridiques. Il n'a pas non plus exclu le mois de Ramadan, la journée de Ramadan entière. Mais il a conseillé aux musulmans d'utiliser siwak à plusieurs occasions. Alors, et Ramadan, c'est une des occasions, on peut utiliser, il est autorisé d'utiliser siwak même pendant la journée de Ramadan. Le troisième point, c'est de faire al-madmada, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez, le stinchar. Il est permis et autorisé de le faire à condition. Donc on peut le faire pendant le wudu, c'est une obligation de le faire dans le wudu, mais en dehors du wudu, on peut le faire aussi. C'est permis, à condition de ne pas exagérer, pour ne pas avaler de l'eau. Il ne faut pas exagérer dans l'aspiration de l'eau par le nez, ni dans le rinçage de la bouche, le madmada. Donc on peut le faire comme Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Dawoud, Tirmidhi et Ibn Majah, il dit à un compagnon qui est Laqith ibn Sabira radiyallahu anhu, Laqith ibn Sabira radiyallahu anhu, le prophète lui dit Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Il lui dit aspire profondément, profondément de l'eau, donc dans l'istinshaq, à moins que tu ne sois en état de jeûne. Donc il est permis de faire l'istinshaq et le rinçage de la bouche madmada. Le quatrième point qui est autorisé, c'est le fait d'embrasser sa femme ou la femme qui embrasse son mari. Donc ça n'annule pas le jeûne. Il peut le faire. C'est permis. Mais là, faire une petite différence qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un jeune est venu chez lui en lui disant, ya Rasulallah, un jeune, il lui dit, est-ce que je peux embrasser ma femme, quand je suis en état de jeûne? Le prophète lui dit non. Non. Et une autre fois, un vieux est venu voir le prophète, il lui dit, ah, Rasulallah, est-ce que je peux... Donc un vieux, c'est, en général, c'est des pièces détachées, etc. Hein, il est fini. Il dit, ah, Rasulallah, est-ce que je peux embrasser, entre parenthèses, ma femme? Le prophète lui dit, non, tu peux. Le rapporteur du hadith, c'est un compagnon, il dit... On s'est regardé. Il a trouvé ça un peu étrange. Comment? Le premier, non. Rasulallah m'a dit, non, tu ne peux pas. Et le deuxième, oui. Alors le prophète, il s'est retourné vers le sahaba en leur disant, Al-Shaykh, inna Shaykha yamliku nafsah. Le vieux, la vieille personne, sait se maîtriser ses désirs. Alors, il est déconseillé aux jeunes de le faire. C'est pas interdit. Mais il est déconseillé de le faire. Sinon, il va peut-être aller plus loin. C'est pour cela, c'est permis. Naam, c'est permis. D'embrasser sa femme, naam, c'est permis. Comme a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha rapporte dans Sahih al-Bukhari en disant qu'elle est nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubashiru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait sa femme. Et Aïcha, elle dit qu'elle m'embrassait moi. Elle dit que le prophète m'embrassait et me faisait des attouchements. Wa huwa sa'im. Tout en étant en état de jeûne. وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. Mais le prophète sallam était le meilleur parmi les sahaba, parmi les musulmans, à se maîtriser le désir. Alors, elle nous montre que le prophète sallam faisait, il embrassait ses épouses. Et il les touchait. Mais lui, il savait se maîtriser. Donc, il est permis, non, mais déconseillé de le faire pour le jeûne. Surtout si, par il est accompagné avec jouissance. Le cinquième point, c'est de se faire des analyses de sang.
Parce qu'on entend souvent que c'est pas permis de faire des analyses de sang, que c'est pas permis de faire des injections. Eh bien, il n'y a rien qui interdit aux musulmans d'aller pendant le ramadan de faire des analyses de sang. Ni de faire des injections du moment qu'il ne s'agit pas d'injections de nourriture. Si c'est des injections, des vaccins contre des maladies, etc., eh bien, il est permis aux musulmans de les faire. Comme il est permis de faire des analyses. Al-Hijama, le fait de saigner, de se saigner du sang, Al-Hijama, comme une sorte de prise de sang, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué. Au début, il avait dit que celui qui fait Al-Hijama, cette prise de sang, pendant Siyam, son Siyam n'est pas valable, il est annulé, mais ce caractère est abrogé, comme disent les savants. Par un autre hadith d'Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le hijama, cette prise de sang, tout en étant en état de jeûne.
Le sixième point, le fait de goûter, surtout pour ceux qui préparent la nourriture pendant le mois de Ramadan,
donc il est permis de goûter la nourriture du moment qu'on n'avale pas, on n'en avale pas. Il est permis de goûter
la nourriture sans l'avaler. Comme dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, ce n'est pas grave de goûter, il a donné donc des exemples, le vinaigre, etc., tant qu'il ne l'avale pas
quand il est en état de jeûne. Et il est rapporté par
Al-Bukhari, c'est un hadith mu'allaq. Le septième point,
de mettre Al-Kuhl. Al-Kuhl. Le Kuhl qu'on met sur les yeux. C'est pas spécifique aux femmes. Même les hommes, ils peuvent le faire comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Kuhl. Parce que certains, dans certaines écoles juridiques, il est interdit de mettre du kuhl, alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il est interdit. il n'y a aucune preuve authentique du prophète qui a interdit de mettre du couch même pendant la journée du Ramadan.
Aussi de mettre
des gouttes dans les yeux.
Et
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah,
rahimahullah, il a choisi
l'avis qui dit que c'est permis de mettre le couch ou bien des gouttes, même si ça arrive ici, donc à côté de la gorge.
Et l'imam al-Bukhari a dit que Al-Hassan al-Basri et Ibrahim ne voyaient aucun mal dans l'utilisation du couch
par
le jeûne dans Sahih al-Bukhari. Le huitième point,
le fait de se baigner dans l'eau, de se laver avec de l'eau, de plonger dans de l'eau, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais il faut faire attention de ne pas avaler l'eau. Mais c'est pas interdit. Le prophète, quand il faisait très très chaud dans Sahih al-Bukhari, dans le livre du jeûne, le prophète, quand il faisait très chaud, eh bien, il versait de l'eau sur sa tête.
Le neuvième point, le dernier point,
c'est de mettre du parfum. Aussi, il n'y a rien qui interdit aux musulmans et à la musulmane, du moment qu'elle ne sort pas de chez elle, quand elle met du parfum, il est permis, pendant la journée du Ramadan, de mettre du parfum.
Il y a quelques règles, inshallah, je vais les traiter dans les questions, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وبارك الله فيك.